les infos.
Vincent Stecline.
La mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, annoncée ce soir par Israël, porte un coup majeur au mouvement islamiste palestinien, déjà très affaibli par un an de guerre à Gaza. Dans l'immédiat, elle pourrait favoriser une reprise des négociations sur une trêve et la libération des otages, estiment des analystes. Yahya Sinwar était considéré comme le cerveau de l'attaque sans précédent du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023, qui a plongé la région dans un conflit sanglant. Et ce soir, Benjamin Netanyahu et Joe Biden ont assuré qu'ils allaient coopérer pour favoriser la libération des otages. Lors d'un entretien téléphonique, le président américain a félicité Israël pour la mort du chef du mouvement islamiste palestinien. Les deux dirigeants ont également estimé que c'était une occasion de favoriser la libération des otages et qu'ils allaient coopérer afin d'atteindre cet objectif. Les 27 États membres de l'Union européenne sont favorables à une nouvelle loi urgente sur l'immigration afin d'accélérer les expulsions de migrants en situation irrégulière. Une annonce à l'issue d'un sommet à Bruxelles ce soir. Le Conseil européen invite la Commission européenne à soumettre une nouvelle proposition législative en urgence selon des conclusions adoptées lors de ce sommet rassemblant les chefs d'État et de gouvernement. En Somalie, au moins 7 personnes, dont des civils, ont été tuées aujourd'hui dans l'attaque suicide d'un homme qui s'est fait exploser près d'une école de police à Mogadiscio. Les djihadistes du groupe militant Al-Serab, lié à Al-Qaïda, ont mené de nombreuses attaques à Mogadiscio et dans d'autres régions du pays. Ils ont revendiqué l'attentat dans un communiqué. Des dizaines de pays appellent à Lausanne à déminer l'Ukraine. La Suisse et l'Ukraine ont rassemblé la communauté internationale dans un appel à collaborer face aux défis massifs du déminage humanitaire dans le pays en guerre. La présidente de la Confédération, Viola Amerd, a annoncé la livraison de 3 machines supplémentaires. Le ministère public valaisan classe l'affaire des abus perpétrés au sein de l'Église catholique. Tous les faits dénoncés sont prescrits et n'ont pas fait l'objet d'un dépôt de plainte pénale à temps, explique dans un communiqué. L'enquête a permis d'identifier 20 auteurs potentiels. 7 d'entre eux sont décédés. 3 ont été mis en cause par plusieurs personnes pour des agissements distincts. Et dans 11 cas, les chanoines, capucins et prêtres n'ont pas pu être identifiés. En tennis, à Stockholm, Stan Wawrinka s'est qualifié pour les quarts de finale. C'est la première fois depuis plus de 13 mois que le Vaudois gagne 2 matchs de suite sur le circuit. Il a gagné en 3-7, 6-4, 7-3, 6-7-5 contre l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. Un vendredi le plus souvent très nuageux avec des précipitations, surtout en première partie de journée. De belles éclaircies en Valais, plus timides sur le bassin lémanique. 12 degrés en pleine la nuit prochaine, 16 l'après-midi, jusqu'à 19 en Valais.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Avec la RTS, valorisons le 7e art. Du 1er au 10 novembre, le Geneva International Film Festival célèbre 30 ans d'audace et de découverte. Plongez dans un carrefour créatif où cinéma, séries et œuvres immersives se rencontrent pour repousser les limites de l'expérience cinématographique. Un événement unique en Suisse, avec plus de 100 œuvres électrisantes et des talents prestigieux, dont la superstar américaine Ava DuVernay. Plus d'informations sur gif.ch. Découvrez Winter Palace, la série événement de la RTS en collaboration avec Netflix, en avant-première, le samedi 2 novembre au GIF. Jean-Marc Richard.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Quand on parle d'accompagner, on entend tant de choses différentes les unes des autres. On entend par exemple le témoignage ou le message de Cosette qui dit « Je constate que des personnes accompagnantes le font sans se rendre compte que c'est souvent parce qu'eux-mêmes ont un problème. De ce fait, ils augmentent leur sentiment de bien-être, pas forcément par obligation, dans des situations difficiles, par amour, par altruisme, et ne voient pas la réalité de certains problèmes. » Et puis, il y a d'autres messages qui, comme celui de Marie, nous rassurent un peu. Accompagner, oui, une sacrée décision. Un ou une magnifique chance. Un ascenseur émotionnel de chaque instant. On ne sort pas indemne d'une telle expérience, d'une telle épreuve. Je l'ai vécu pour ma maman de cœur, maman chargée en émotions et de toutes sortes. Il y a aussi ce message qui dit « Sacré engagement que l'accompagnement est surtout sacré ascenseur à émotion. Je suis aidante de ma maman depuis presque un an et c'est à la fois une richesse et une frustration. Richesse car plein de moments profonds et sincères. Frustration car on aimerait tellement pouvoir faire plus car ce ne sont pas nos parents et ils se sont, nos parents et ils ont tout donné et le font encore. » Mais pas évident de le voir diminuer physiquement et se remettre en même temps. Et parfois, pas facile à gérer entre le travail et son rôle d'aidant. Mais je suis fier de pouvoir le faire pour ma maman et je sens la force de mon père de là-haut. C'est Pichoun qui nous a envoyé ce message. Merci Pichoun, ça nous touche beaucoup. Laure disait, oh là là, c'est un vaste sujet. Pour accompagner, il faut être bien accompagné, s'entourer des bonnes personnes avec la bienveillance. C'est s'économiser pour ne pas s'épuiser. C'est aussi des moments de rage, de pleurs, de pourquoi moi. C'est un marathon extraordinaire que les sprinters ne connaîtront jamais. C'est ma vie et celle de mes enfants. Message de Laure que vous avez peut-être entendu témoigner hier qui dit ça de façon tellement profonde, un marathon extraordinaire que les sprinters ne connaîtront jamais. C'est ma vie et celle de mes enfants. Accompagner, c'est aussi des femmes et des hommes de foi qui le font. Et peut-être que tout à l'heure, on aura des témoignages dans ce contexte. Accompagnons, accompagnez. Si cela vous touche, si vous avez un vécu comme celui de Cosette, de Laure, de Pichoun ou d'autres encore qui témoignent depuis lundi, on a eu beaucoup de témoignages à ce sujet, vous n'hésitez pas, vous prenez votre téléphone et vous venez partager avec nous. Peut-être que cet accompagnement, il a été, nourrissant, peut-être qu'il vous a plutôt fragilisé ou même détruit parce que c'était trop compliqué ou parce que vous ne vous sentiez pas assez fort pour et que vous avez dû le faire. Peut-être que vous avez aussi envie de parler d'autre chose. Hier soir, on a abordé la problématique du sommeil, le manque de papa, les médicaments contre la schizophrénie ou d'autres choses comme le divorce. Ce sont des thèmes qui sont venus s'ajouter à ce sujet que nous vous proposons d'évoquer et d'aborder depuis lundi, accompagné avec ER ou accompagné avec aigu. On a eu beaucoup de personnes qui accompagnent. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de témoignages de personnes qui sont accompagnées ou ont été accompagnées. Et ça nous intéresserait fort de vous entendre et de nous dire comment c'était important. Peut-être que c'est le contraire, que vous avez vécu et que c'était trop envahissant et que vous aviez le sentiment de perdre un peu beaucoup votre autonomie et que cet accompagnement qui aurait dû être bienveillant a fini par être un peu toxique. Alors là aussi, évidemment, ça nous intéresse. Ou simplement, cet accompagnement, il est là, il est encore là aujourd'hui et vous prenez le temps de dire merci à celle ou celui qui vous accompagne et que peut-être vous avez envie de le faire ce soir, de le rendre universel, ce merci, à travers votre propre expérience, comment remercier toutes celles et tous ceux qui vous accompagnent ou accompagnent d'autres. N'hésitez pas. 0800 80 70 70 0800 80 70 70. Et puis, si vous préférez utiliser l'écrit, alors votre clavier vous emmènera avec deux possibilités. Une première, SMS, cœur, un espace suivi de votre message au 939. Ou tout simplement avec notre WhatsApp 076 318 9649. Isabelle Barthes, Daniel Do et votre serviteur sont très heureux de vous accompagner jusqu'à minuit.
Ces pierres mal attachées, même si je dois me brûler les pieds, je vais me lâcher. Éviter les cactus à côté, je vais m'asseoir sur mon rocher, reprendre ce que la vie m'a ôté, et toi à mes côtés. Aujourd'hui cette vie m'ensorcelle, on va se câliner au soleil.
cactus à manger, rendre à la vie ce que j'ai ôté, et rendre au monde ce qu'il m'a donné, et toi à mes côtés.
Bonsoir Carole.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Carole Barraud-Vial. Ah, je vous, à partir de maintenant, je vous appelle Carole, j'ai des problèmes avec les noms de famille, moi, toujours un petit peu.
Ça va très bien comme ça.
Action Innocence, qui s'intéresse de près aux écrans et aux enfants, ainsi qu'à leurs parents. Alors, si on vous accueille aujourd'hui l'invitation de Daniel Do, c'est parce que ben ça fait partie de l'accompagnement. Comment est-ce qu'une organisation comme la vôtre, Action Innocence, peut accompagner des enfants et des parents dans leur consultation des écrans? Mais d'abord, rappelez-nous ce qu'est Action Innocence, Carole.
Alors, Action Innocence, c'est une fondation qui œuvre depuis 25 ans pour accompagner les enfants et leurs familles pour une saine utilisation des écrans. Et on est active dans toute la Suisse romande.
C'était aussi à l'origine un peu pour éviter que les enfants soient confrontés à la violence, à la pornographie, à toutes ces choses-là, non, si je me souviens bien.
Effectivement, vous avez raison. Dans l'initiative au début de la création de la fondation, c'est toujours dans notre ADN, c'est de pouvoir protéger les enfants qui sont la cible de cybercriminalité et de cyberpornographie.
Alors là, quand on parle d'enfants, on peut parler d'enfants très petits, d'enfants moyens, d'ados. Là, dans cette démarche qui est la vôtre, pour sensibiliser les parents et les enfants qui consultent leurs écrans, c'est plutôt les tout-petits, hein.
Alors effectivement, dans le cadre de notre programme Grandir avec les écrans, nous œuvrons depuis plusieurs années en soutenant la recherche, notamment pour avoir des données en lien avec l'utilisation des écrans par les enfants et les très jeunes enfants au sein des familles de Suisse romande. Et c'est vrai qu'on a peu de données scientifiques à ce jour, et c'est pour ça que la Fondation Action Innocence, elle œuvre aussi à aller sur le champ de la petite enfance chez les tout-petits, et que notamment on a un film qui est sorti cet automne, Grandir avec les écrans, où on a eu la chance d'avoir des familles qui nous ont ouvert leur foyer pour voir comment elles géraient les écrans avec des enfants de 1 à 2 ans. Parce qu'effectivement, ces écrans sont là de plus en plus tôt et c'est très très important de pouvoir offrir des messages d'accompagnement aux parents.
Est-ce qu'on obtient des chiffres? Par exemple, combien de temps passe un enfant qui a moins de 3 ans sur un écran, c'est ça?
Alors, à ce jour, il y a certains chiffres qui vont sortir parce que notre doctorante, Madame Estelle Gillot, qui va pouvoir publier sa thèse à la fin de l'année, pourrait vous donner des chiffres effectifs qui aujourd'hui ne sont pas encore totalement publiés. Mais ce que je pourrais déjà vous dire dans un premier temps, c'est qu'on sait aujourd'hui que les enfants sont autorisés par leurs parents à consulter les écrans en moyenne dès l'âge de 13 mois. Donc c'est un chiffre qui est précoce en termes d'âge et que la durée, elle peut être de quelques minutes à une durée plus ou moins longue en fonction de l'activité qui est proposée par les parents. Est-ce que c'est un temps d'échange avec mamie qui est à l'étranger où on est en train de téléphoner, ou est-ce que alors c'est un temps passé seul devant un dessin animé ou une petite vidéo? Et là, vous voyez que seule la question du temps, c'est un seul indicateur, alors qu'en fait, je suis en train de vous parler du contenu qui peut vraiment être très différent.
Alors, contenu, ça veut dire aussi support. On sait quels sont les supports que consultent, que regardent à travers leurs parents, j'imagine, pour bon nombre d'entre eux, les enfants de moins de 3 ans.
Alors, pour beaucoup, en premier lieu, c'est aussi le téléphone portable des parents.
Ouais.
Les enfants de moins de 3 ans, ils sont pas leur propre ordinateur portable, de tablette ou de console de jeu. C'est bien les outils des parents qui sont mis en main des enfants, dans un premier temps.
Donc vous dites téléphone portable, écran d'ordinateur, mais est-ce que la télévision fait aussi partie de l'étude ?
La télévision fait toujours partie de l'étude. C'est par contre toujours intéressant aujourd'hui de pouvoir se dire que la télévision aujourd'hui, pour la plupart des téléviseurs, ce sont des appareils connectés à Internet et donc sur lesquels on va pouvoir voir du contenu qui donne accès à des plateformes de diffusion à large échelle et non plus uniquement à un lecteur de DVD tel que ça pouvait être le cas par le passé.
Alors vous-même, Carole et l'association Action Innocence, que pouvez-vous faire pour accompagner les parents? Si j'ai bien compris, à cet âge-là, c'est un peu difficile ou plus difficile d'accompagner les enfants, mais à moins de 3 ans, mais les parents, dans cette problématique d'utilisation des écrans.
Alors peut-être que dans un premier temps, j'aurais envie de vous répondre qu'il s'agit de pouvoir aussi déculpabiliser les parents. Les écrans sont partout, ils accompagnent les adultes dans leur vie du quotidien, ça leur sert à faire un certain nombre de démarches, à pouvoir être en lien avec leurs amis, pour travailler, pour les loisirs. Donc c'est un état de fait, ces écrans sont partout. Maintenant, en tant que parent, eh bien, ce qu'on va pouvoir donner comme premier message aux parents, c'est de leur rappeler que les enfants nous imitent, nous les adultes. Et donc, c'est important de prendre conscience soi-même de sa propre utilisation et dans l'idéal de pouvoir dire à son enfant « Ah, attends, là ça a sonné, je vais répondre à un message afin que l'enfant puisse comprendre que quand je ne vais plus être disponible pendant quelques secondes, voire quelques minutes, c'est bien parce que mon attention a été captée par ce petit appareil auquel l'enfant a de la difficulté à mettre du sens, parce qu'il ne le voit pas, il voit l'appareil, mais il ne sait pas ce que l'adulte y fait.
Ça, c'est pour donner un sens à l'utilisation de l'appareil, mais pour éviter, par exemple, que les parents soient dépassés par leurs enfants dans l'utilisation des écrans, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut conseiller ?
C'est une excellente question. Effectivement, le cadre, comment est-ce qu'on va pouvoir fixer des limites aux enfants, c'est aussi pouvoir se rappeler quels sont les besoins des enfants. Et quels sont les besoins d'un petit enfant, c'est de pouvoir bouger, utiliser ses 5 sens. Et là, vous allez constater, comme moi, qu'un écran, il va beaucoup utiliser la vision, il va utiliser aussi un bout l'ouïe, de manière très très fine et très très simple, peut-être un petit bout du toucher parce que je vais aller de gauche à droite, mais en fait cet écran-là ne permet pas à l'enfant de faire tout ce qui est absolument indispensable pour pouvoir se développer harmonieusement. Donc chez les petits, c'est commencer par dire, avant de proposer des écrans à votre enfant, c'est de s'assurer que l'enfant a suffisamment bougé, suffisamment pu manipuler différents objets. Et quand on choisit un moment en tant qu'adulte de mettre l'enfant devant un écran, eh bien, on a choisi le contenu pour qu'il soit adapté à l'âge de l'enfant et que ça soit le plus profitable pour lui ou pour elle. Par exemple, avec un début et une fin. Parce que les enfants, ils ont besoin d'avoir des activités qui ont un début et une fin.
Dites-moi une chose, Carole. Les parents, parfois, ils doivent être un peu perdus parce qu'on entend à la radio, on lit dans les journaux, on voit à la télévision, sur les réseaux sociaux, qu'on ne devrait jamais donner un écran à un enfant à moins d'une année, d'autres 2 ans, d'autres 9 mois, d'autres 3 ans. Et d'autres qui disent que ça pose aucun problème et qu'au contraire, il faut socialiser les enfants comme ça. C'est pas simple d'être parent avec les écrans aujourd'hui, franchement.
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est un sacré défi pour les parents parce que on peut entendre des messages qui sont extrêmement négatifs, qui peuvent faire très, très peur. Ou soi-même, en tant que parent, on peut se dire oh, « Mais moi, j'ai autorisé mon enfant à être un moment devant un écran. Est-ce que je suis un bon ou un mauvais parent? Est-ce que c'est bon ou mauvais pour mon enfant ?» Et c'est toute cette, tout cet équilibre qui est difficile et qui est un challenge, un défi pour les parents à trouver entre les besoins de l'enfant pour son sommeil, pour le fait de bouger et le fait qu'un enfant a besoin de cadre et d'avoir de limites. Donc, c'est pas l'écran qui est nocif en tant que tel. Ça va être vraiment l'idée de pouvoir être accompagné. Je suis un parent et je décide à un moment parce que là où je vis, dans mes besoins en tant que parent, dans la réalité qui est la mienne, à un moment, je pense que mon enfant, il pourrait avoir ce moment d'écran. C'est important que je puisse en discuter avec lui ou avec elle. Et en fait, j'ai envie de vous répondre pour vous dire qu'il faut mettre de la nuance par rapport à ce qu'on entend autour des écrans. Ils sont ni bons ni mauvais seuls en l'état. Par contre, un écran tout seul va servir à rien à un enfant. Par contre, les enfants ont fondamentalement besoin des adultes autour d'eux pour discuter de ce qu'ils voient sur les écrans, de leurs expériences. Et c'est ça le plus fondamental.
Quelqu'un nous fait une remarque par WhatsApp au 076 318 9649 en disant « J'ai 50 ans à mon époque, mes parents, quand ils voulaient avoir un petit peu la paix ou qu'ils devaient travailler, ils me mettaient devant la TV un bon dessin animé et puis ça allait très bien. » Trois petits points.
Et oui, et je pense que cette personne a tout à fait raison. Le dessin animé en tant que tel va pas être nocif pour l'enfant et les parents ont aussi la possibilité d'avoir des espaces pour elles et pour eux pour pouvoir aussi se ressourcer, être plus disponible pour leur enfant. Aujourd'hui, peut-être que ce que nous pouvons constater au sein de la Fondation Action Innocence, c'est que les parents sont souvent inquiets sur la question de la durée et du temps, mais en fait, ils ne savent pas ce que font leurs enfants devant les écrans, à quoi leur enfant joue, qu'est-ce que leur enfant regarde. Et en fait, cet écran n'est plus un objet de discussion. Ça devient quelque chose qu'on donne à l'enfant et qui se passe hors du regard de l'adulte. Et c'est peut-être là le plus grand défi aujourd'hui pour les parents, c'est de se dire, ben peut-être qu'à un moment, c'était bien que mon enfance, pour moi, j'avais besoin d'avoir ce temps-là pour cuisiner, pour réfléchir un moment tout seul, peut-être pour faire des paiements. J'ai fait ce choix-là. Et en fait, après, je peux poser la question à mon enfant de qu'est-ce qu'il y a fait, qu'est-ce qu'il y a vu, parce que c'est là que va être l'enjeu principal.
Alors, une dernière question, mais elle est d'importance parce qu'on a parlé des supports. Maintenant, évoquons les contenus. Évidemment, on a évoqué le contenu dessin animé, mais tout ce qu'on peut voir sur des écrans comme celui du smartphone ou des tablettes ou autres, ça peut représenter quand même quelques soucis aux parents, voire directement aux enfants, non ?
Tout à fait d'accord avec vous. Le fait est que quand je donne en tant qu'adulte un appareil à un enfant, si c'est mon appareil en tant qu'adulte, vu que tout ce que je vais faire sur Internet, la navigation va laisser des traces et va m'identifier comme étant un adulte, le contenu qui va être proposé quand je vais sur des plateformes de vidéos, quand j'ouvre des pages de navigation Internet, va être du contenu plus pour adultes. Donc, un des conseils qu'on va donner aux parents, c'est d'avoir des profils spécifiques pour leur enfant, ou pourquoi pas d'avoir un vieux téléphone ou une vieille tablette qui serait utilisée que par l'enfant et qui resterait au salon, rangé à la maison, afin que cet outil ait le moins possible de contenu pour adultes. Et on peut faire des réglages dans tous les appareils pour éviter que les enfants soient confrontés à des contenus qui ne leur sont pas destinés.
Carole, vous avez constaté que les parents sont perdus ou bien qu'au contraire, ils ont déjà une philosophie toute faite ou qu'ils se posent quand même des questions en la matière?
Alors, oui, j'aurais envie de vous dire un petit peu de tout ça parce que les parents sont faits de plein de familles, de plein de contextes et de plein de réalités différentes. Donc, vous avez des parents qui se posent déjà énormément de questions, d'autres parents qui arrivent en se disant « Oups, mon enfant a vu quelque chose qu'il ou elle n'aurait pas dû voir, j'aimerais bien que ça se reproduise pas ». En fait, ce que nous, on va donner, notre impression, en tout cas, le regard qu'on a par rapport aux parents, c'est que tous les parents ont envie du meilleur pour leur enfant. Et que si un enfant vit une mauvaise expérience sur Internet ou dans une utilisation du numérique, c'était pas dans l'intention du parent et que la grande majorité des parents ensuite va bien évidemment essayer de rétablir les choses, de faire en sorte que l'enfant ait les expériences les plus positives possibles.
Action Innocence, pour avoir d'autres informations sur l'accompagnement des enfants et des parents et vice-versa, comme dirait l'autre, en matière de consultation des écrans. Merci beaucoup, beaucoup d'être venu à l'invitation de Daniel Dau. C'était intéressant pour nous de vous entendre évoquer ce sujet auquel on ne pense pas nécessairement spontanément, mais qui très souvent est abordé dans la ligne de cœur sur l'utilisation par les enfants, par les adolescents de l'écran et parfois aussi sur le mauvais exemple que peuvent donner les parents. S'ils ont besoin d'être enseignés, c'est avec plaisir qu'ils peuvent aller sur votre site internet, qui est très bien fait, Action Innocence. Merci Carole, à bientôt.
Merci beaucoup, bonne soirée Jean-Marc, au revoir.
À vous aussi, bonne soirée et bonne nuit, bien sûr. Bon. 0800 80 70 70, ça c'est pour le téléphone. Puis pour le WhatsApp, c'est 076 318 9649. Bienvenue. Chris Isaac, et tout à l'heure on a entendu Jean-Louis Aubert. Et on vous écoute avec plaisir juste après le journal de nuit que voici.
La première, vous offre l'heure.
Il est 22h30 et vous avez rendez-vous pour le journal de nuit avec Camille Besse. Bonsoir.
Bonsoir. Israël annonce la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar. L'homme est considéré comme l'un des architectes de l'attaque sanglante du 7 octobre. Une mort qui suscite de nombreuses réactions à l'international. Kamala Harris, candidate démocrate à la Maison-Blanche, y voit l'occasion de mettre fin à la guerre. Il n'y aura plus de journal radio de 22h30 l'an prochain, conséquence des mesures économiques détaillées par la RTS aujourd'hui. Plusieurs autres émissions radio et TV sont concernées, des mesures qui impactent aussi le personnel de la RTS avec la suppression de 46 équivalents plein temps. Kylian Mbappé réservera ses explications pour la justice si celle-ci le demande. Le parquet suédois a annoncé mardi mener une enquête pour viol après le passage du joueur français et de son entourage la semaine passé à Stockholm. Une affaire suivie de près en France et qui se fait plus discrète en Espagne où évolue le joueur. Météo, un ciel couvert demain avec des nuages et précipitations en première partie de journée. Il fera maximum 16 degrés en pleine. L'armée israélienne annonce avoir tué le chef du Hamas, Yahya Sinwar, éliminé lors d'une opération dans la bande de Gaza. Un coup décisif porté au mouvement islamiste palestinien après plus d'un an de combat. Ariane Ménage, notre correspondante à Tel Aviv.
Ça pourrait être un véritable tournant dans cette guerre. Yahya Sinwar est celui qui était considéré comme le cerveau des attentats du 7 octobre, celui aussi qui est considéré comme l'un des chefs les plus radicaux du mouvement islamiste dont il avait pris la direction politique également après l'élimination à Téhéran d'Ismaël Haniyeh en juillet dernier.
Et les appels à la libération des otages encore prisonniers du Hamas se multiplient après l'annonce de la mort de Yahya Sinwar. Après le premier président israélien, le président français a exigé la libération de tous les otages encore retenus par l'organisation islamiste. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Joe Biden ont annoncé qu'ils allaient coopérer afin de favoriser la libération des otages. Selon Joe Biden, la mort du militant radical de 61 ans crée une occasion pour un règlement politique à Gaza. Le déminage humanitaire de l'Ukraine est un processus qu'il faudra soutenir à long terme. Plus de 40 pays ont dressé ce constat à Lausanne aujourd'hui. Les délégations ont signé un appel au premier jour d'une conférence diplomatique qui doit en durer deux. Et qui dit déminage à long terme dit aussi moyens financiers. La Suisse a d'ailleurs voulu montrer l'exemple en accordant un financement de 30 millions de francs supplémentaires jusqu'en 2027 à la Fondation Suisse de Déminage. La réaction de Hans-Jörg Eberle, le directeur de la Fondation Suisse de Déminage.
La Suisse finance la Fondation Suisse des Déminages déjà depuis bientôt 2 ans et nous avons un budget à peu près de 10 millions par an. Alors les 30 millions supplémentaires vont nous permettre de continuer à fonctionner les prochains 3 ans. Concrètement, en Ukraine, la FSD aujourd'hui a à peu près 800 collaborateurs dans 4 projets, dont un projet financé par la Suisse pour les 10 millions. Alors nous avons un programme très complet de déminage dans la région de Kharkiv, dans l'oblast de Kharkiv, et aussi dans le sud, à Kherson, où nous avons des démineurs qui font du déminage manuel, des machines, nous avons commencé à utiliser des chiens. En fait, nous utilisons toute la panoplie des outils à notre disposition pour venir à bout de ces mines et de ces munitions non explosées qui polluent les villages, qui permettent pas à reconstruire, qui permettent pas aux paysans de cultiver et qui mettent la population civile en danger.
Hans-Jörg Eberle était en direct dans Forum. En plus de cette enveloppe supplémentaire, la Suisse livrera 3 machines de déminage, des machines qui seront produites par une entreprise suisse. Joe Biden est arrivé ce soir à Berlin pour sa dernière visite officielle en Allemagne. Le président américain doit s'entretenir demain avec le chancelier Olaf Scholz et les dirigeants français Emmanuel Macron et britannique Keir Starmer pour une discussion centrée sur le soutien occidental à l'Ukraine et l'expansion du conflit au Proche-Orient. Réunis à Bruxelles, les 27 États membres de l'Union européenne se sont dit favorables à une nouvelle loi sur l'immigration. Le Conseil européen invite la Commission à soumettre une proposition en urgence afin d'accélérer les expulsions de migrants en situation irrégulière. En mai, l'Union européenne a adopté le pacte migration et asile. Il est censé entrer en vigueur mi-2026 avec un durcissement du filtrage aux frontières et un mécanisme de solidarité dans la prise en charge des demandeurs d'asile. L'Allemagne et la France plaident pour accélérer sa mise en place.
Force est de constater qu'aujourd'hui, on est quand même continuellement informé grâce à l'application RTS Info, par exemple. Et puis, entre 22h et 23h, il y a quand même aussi deux flash informations qui sont toujours là.
Les mots de Pascal Critin, directeur de la RTS, à vous qui écoutez ce journal. Car dès 2025, il n'y aura plus de journal radio de 22h30. Le programme d'économie de la RTS s'est précisé aujourd'hui. La RTS va licencier 19 personnes auxquelles s'ajoutent des postes non repourvus, des départs à la retraite anticipés. Au total, ce sont 46 équivalents plein temps sur 1800 postes qui disparaîtront dans le cadre d'un programme d'économie à 10 millions de francs. À la radio, le magazine de reportage 15 minutes ou encore la chronique à voix haute sont aussi supprimés. Côté TV, Sport Dernière, Vivant, Nouveau ou encore Helvetica cesseront d'être diffusés. Et ce n'est que le début, d'autres programmes vont passer à la trappe ces prochaines années.
Ben moi j'ai le triste devoir avec tous mes collègues qui dirigent la SSR de devoir appliquer un certain nombre de décisions qui sont prises. À partir de 2027, si tout se passe bien, c'est-à-dire si l'initiative de 100 francs est refusée, eh bien, il y aura la proposition du Conseil fédéral qui va entrer en vigueur avec une baisse de la redevance qui va signifier pour nous 150 millions d'économies, 35 francs pour les ménages. À la fin, c'est 150 millions avec tous les ménages qui payent. Et puis, avant cela, en 25 et 26, c'est la baisse, le fait que le renchérissement n'est plus compensé, plus les pertes publicitaires. Donc, effectivement, c'est un exercice un peu pénible de venir chaque année de devoir annoncer des économies comme celle-là.
Pascal Critin était en direct dans Forum. Affaire classée dans le dossier des abus perpétrés au sein de l'église en Valais. Tous les faits dénoncés sont prescrits ou n'ont pas fait l'objet d'un dépôt de plainte pénale à temps, indique le ministère public valaisan aujourd'hui. Ouverte en septembre 2023, l'enquête a permis d'identifier 20 auteurs potentiels. 7 d'entre eux sont décédés, 3 ont été mis en cause par plusieurs personnes pour des agissements distincts et dont 11 cas, les chanoines capucins ou prêtres n'ont pas pu être identifiés. Le père abbé soupçonné d'abus sexuels et de leur dissimulation avait quitté son poste en septembre 2023 afin de garantir l'indépendance de l'enquête. Cette procédure préliminaire s'inscrivait à la suite de l'enquête retentissante de l'Université de Zurich sur les abus commis depuis 1950 au sein de l'Église catholique romaine en Suisse. Mbappé pourrait être impliqué dans une affaire de viol. L'attaquant français du Real Madrid est en tout cas lié à une enquête pour viol en Suède. L'affaire agite les médias français avec chaque jour son lot de révélations. Mais du côté des médias espagnols, elle ne fait pas grand bruit. Le joueur, soutenu par son club, devrait d'ailleurs être titulaire samedi du match du Real face à Vigo en Liga. Alors, comment comprendre cette différence de traitement médiatique entre les deux pays? L'éclairage de Valérie Demont, notre correspondante à Madrid.
Alors écoutez, la presse sportive à Madrid, eh bien, elle est très pro-Real Madrid, sans grande surprise. N'oublions jamais aussi que le club du Real est puissant, très puissant. Il possède une énorme influence sur la presse. Et pour l'instant, c'est presque circulé, il n'y a rien à voir. Le Real Madrid reste très serein, il a les capacités bien sûr aussi de gérer un scandale. Le club soutient son joueur pour l'instant et selon l'AFP, ces accusations de viol sont qualifiées, je cite, de plus gros fake de l'histoire du sport par le club. Alors il y a bien eu un moment de malaise quand même mardi lorsque le Real Madrid a effacé Mbappé d'une photo dans une campagne promotionnelle avec Adidas. Le club a rapidement expliqué eh bien, que Mbappé ne pouvait tout simplement pas y être puisqu'il est lié à un concurrent, son sponsor Nike. En fait pour le reste, tout est resté normal. Mbappé s'est entraîné mardi, le club a même diffusé des photos du buteur français.
À noter que la situation pourrait bien se compliquer pour Mbappé en cas d'accusation formelle. Le Real Madrid tient à sa réputation et les violences sexuelles sont prises très au sérieux en Espagne. De son côté, Kylian Mbappé dit vouloir garder ses explications pour la justice si elle venait à le solliciter. En tennis, Stan Wawrinka se qualifie pour les quarts de finale de l'ATP 250 de Stockholm. C'est la première fois depuis plus de 13 mois que le Vaudois gagne 2 matchs de suite sur le circuit. Il a battu l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina 6-4, 3-6, 7-5. La rockstar des médecins légistes en visite en Suisse, le Belge Philippe Boxo, qui a déjà écoulé plus de 200 000 exemplaires de son autobiographie « La mort en face », sortie il y a quelques semaines. L'homme est aussi un phénomène sur les réseaux sociaux. Hier, plus de 500 personnes étaient à Lausanne pour suivre sa conférence. Philippe Boxo, qui n'a pas son pareil pour raconter avec humour ses autopsies et pour mieux présenter le métier de médecin légiste. Un métier, selon lui, mal présenté dans les séries télé.
Mais d'abord, quand vous regardez les médecins légistes qui sont présentés dans ces fameuses émissions, ces séries américaines, disons-le clairement, soit c'est une femme et c'est un canon de beauté, soit c'est un homme et il a un problème ou physique ou mental qui permet d'expliquer qu'il ne s'est pas tourné vers la médecine curative et qu'il a fait la médecine légale par défaut. Ça, c'est la première chose. Ça m'énerve. Parce que, bon, je suis pas beau, j'ai pas dit ça, mais je suis normal, quoi. J'ai pas d'handicap connu, hein, j'ai rien de particulier, je suis quelqu'un de tout à fait normal, très différent de ce qu'on voit dans les séries américaines. C'était la première chose. Et puis la deuxième, c'est qu'il vous invente carrément des lésions qui n'existent pas. Il vous invente carrément des trucs que l'on pourrait trouver dans le corps rien qu'en le regardant, qui n'existent pas. Il vous trouve une façon d'évaluer le moment du décès qui n'existe pas, qui laisse croire à tout le monde qu'on peut être fixe sur le moment du décès et dire, ben voilà, c'était 23h, 52 minutes et 30 secondes. C'est pas vrai. Et tout ça, ça m'énerve. C'est pas à ça qu'on sert. Et d'autre part, nous ne sommes pas non plus des enquêteurs. On fournit à l'enquête des éléments, aux enquêteurs des éléments, c'est eux qui vont trouver l'auteur, c'est pas nous. Voyez ? Donc il ne faut pas nous faire jouer ce rôle-là.
Philippe Boxeau, interviewé pour l'émission Forum. Interprétée à la télévision, cette chanson en dialecte alémanique avait créé le buzz, c'était il y a 55 ans. La famille de son créateur, Mario Ferrer, a confirmé aujourd'hui le décès du violoniste zurichois. Survenu mardi, il était âgé de 82 ans. Monument du patrimoine populaire, la popularité du titre Grützli von Frau Stirmina a dépassé les frontières de notre pays. Le tube s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde et donné lieu à de nombreuses reprises. Météo, le ciel restera couvert ce soir et cette nuit avec quelques précipitations qui se poursuivront demain, surtout en première partie de journée, de la neige au-dessus de 2800 mètres. Retour du soleil à partir de la mi-journée. Côté température, il fera jusqu'à 16 degrés en plaine et 19 en vallée.
Grüezi wohl, Frau Stirnimann. Ça, c'est quand même un monument. Merci beaucoup, Camille Besse, pour la présentation de votre journal de nuit. Vous allez nous manquer, hein, l'année prochaine, à partir de début janvier, j'imagine, parce que, ben, à chaque fois, c'était aussi l'occasion de parler un petit peu de ce qu'on entend dans votre journal et de le faire avec les témoignages de nos auditrices et de nos auditeurs, parfois aussi les réactions. Évidemment, on ne fait pas une émission politique, on ne revient pas sur l'actualité, mais parfois il y a des petites choses comme ça qui font qu'on peut ensemble partager. Cette semaine, c'est très calme sur nos réseaux sociaux. Je vous le dis, la semaine passée, c'était la folie, on n'arrivait plus à gérer, puis cette semaine, c'est extrêmement calme. Donc, vous pouvez utiliser le WhatsApp sans hésiter au 076 318 9649. Donc, c'est notre WhatsApp. Et puis, si vous préférez utiliser le SMS, ben, vous pouvez aussi. Mais les SMS, c'est pas gratuit. Donc, si vous nous en envoyez un, sachez que ça va vous coûter quelques centimes. C'est pas énorme, mais ça vous coûte quelques centimes. Donc, profitez si vous voulez utiliser le WhatsApp. Et si vous préférez quand même le bon vieux SMS, eh bien, c'est cœur, un espace suivi de votre message au 939-939. Alors, Calimero dit, on voit de plus en plus d'enfants et de jeunes avec des lunettes. Quelqu'un nous dit, ce serait judicieux de commencer la ligne de cœur un peu plus tôt au lieu de passer de la musique, dit Marie. Mais la ligne de cœur, c'est de 22h à minuit, donc on peut déjà envoyer des messages à 21h, 21h30. Pour moi, ça ne me pose aucun problème, mais vous pouvez le faire, on est là, hein, bien sûr, et on vous accueille avec vos messages. Accompagner, c'est le thème de cette semaine. Et s'il y a bien un homme qui accompagne depuis des années, avec lequel on va partager maintenant, c'est François-Xavier Amert. Bonsoir François-Xavier.
Bonsoir Jean-Marc, merci. Merci de cette présentation. C'est un beau mot, accompagner, parce
c'est fantastique,
ouais. Ça veut dire ad companis, aller ensemble vers le partage du pain et du repas. C'est magnifique.
C'est ce que vous faites depuis des années, comme formateur, oui, oui. Comme prêtre aussi.
Oui, c'est vraiment... tout à l'heure, j'étais avec des jeunes. C'est vraiment être avec et puis écouter, puis partager les soucis, les drames, les épreuves, et puis faire signe vers une espérance, et puis orienter, et puis dire une parole, et puis oui, c'est tout un art en fait.
Je vais vous lire un message d'Éric, qui lui est pasteur, et qui nous a envoyé ce message hier soir, mais je l'ai gardé pour vous, François-Xavier, parce que comme
merci,
ça on peut échanger
Jean-Marc.
De façon qu'est-ce qu'on va dire, confraternel, et c'est confraternel. Voilà, c'est ça.
Œcuménique, oui.
Œcuménique. Accompagné, dit Eric. Je me souviens de l'étymologie latine de ce verbe qui est composé donc du préfixe ac et ou ad, qui est un lieu, une destination, un chemin. Et il y a le compagnonem, qui est le compagnon avec qui ou vers qui l'on va. Et le compagnon, c'est aussi celui ou celle avec qui tu partages ton pain, autrement dit ton quotidien, ta joie et tes peines. Alors accompagné, dit-il, c'est vivre un chemin qui a beaucoup de choses à nous apprendre, à condition de le faire ensemble. Et il signe votre dévoué compagnon Eric. Ben c'est vrai que ce chemin, vous l'avez fait avec tant de jeunes, mais pas seulement aussi comme prêtre, mais aussi évidemment comme formateur. Qu'est-ce que ça apporte ? Parlons-en, parce qu'on sait que ça doit aussi apporter quelque chose, ça doit nous construire, ça doit nous aider, ça peut. Qu'est-ce que ça apporte, l'accompagnement tel que vous le faites depuis des années ?
C'est réciproque, c'est vraiment réciproque. C'est pas unilatéral, c'est pas seulement le pasteur, le prêtre ou le formateur qui accompagne et donne, mais je reçois autant que je donne. Je l'ai vu durant mes 16 années comme professeur à l'université. C'était absolument passionnant, notamment d'accompagner des candidats au doctorat, parce que quand on fait un doctorat, on élabore une thèse, donc on réfléchit vraiment à une problématique, on va très loin, et moi, ça m'a ouvert des horizons magnifiques. J'avais des doctorants de tous les coins du monde, et ça m'a permis vraiment d'ouvrir mon cœur. Vous voyez, les Valaisans, des fois, on est un peu enfermés dans nos montagnes. Et bien voilà, ça m'a permis de mieux connaître l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie. J'ai eu des doctorants chinois, vietnamiens. Donc, c'est vraiment une ouverture d'horizon. L'accompagnement, c'est un partage qui enrichit les deux partenaires. C'est un dialogue, c'est une alliance au fond. Et pour les jeunes, alors je vois là maintenant que je suis curé de paroisse à Savièse, c'est vrai que c'est être comme un point de repère dans ce monde un peu fou, ce monde liquide où on a besoin de balises, être quelqu'un chez qui les jeunes savent qu'ils peuvent venir, et puis avec eux trouver un chemin, parce que c'est pas moi qui vais leur dire ce qu'il faut faire. Évidemment, c'est eux qui dessinent leur propre chemin avec leurs parents, avec leurs parrains et marraines. Je vois aussi pour les enfants, hein, c'est très très important de leur donner un certain nombre de points de repère spirituels, humains, affectifs et émotifs. Et moi, ça m'apporte beaucoup. L'autre jour, dimanche, j'ai célébré un baptême de petits-enfants, un baptême par immersion. Et puis, les deux, après qu'ils ont été baptisés, donc c'était des nouveau-nés, ils étaient à côté du chaudron et tout d'un coup ils se sont mis à deviser l'un avec l'autre après le baptême. Et tout le monde a éclaté de rire, et c'était vraiment les enfants en quelque sorte qui nous accompagnaient, qui nous évangélisaient, si je puis dire. Donc quel que soit l'âge, je pense que chacun a des richesses qu'il peut partager et dont nous bénéficions sans cesse.
Grâce à vos écrits, on bénéficie de choses tout à fait passionnantes aussi, je dois le dire. Et l'un de vos écrits est lié au sport. C'est pas un hasard pour celles et ceux qui vous connaissent. Non seulement vous êtes chanteur dans ce magnifique octuor dans lequel vous êtes toujours, bien l'octuor vocal de
Sion. Oui, on arrive
Sion.
Bientôt aux 50 ans. On arrive bientôt aux 50 ans en 2026. Alors oui, l'octuor va très très bien. J'espère, oui, avec un kiosque à musique.
Ah, ça j'espère aussi, on sera là en tout cas. Et parallèlement, d'autres savent aussi que vous êtes arbitre de foot. Ça c'est quelque chose que vous avez pratiqué, vous pratiquez. Et justement, vous vous intéressez au lien entre le sport et la foi. Mais alors, question plus personnelle. François-Xavier Amert, c'est le prêtre qui accompagne le sport ou c'est le sportif qui accompagne le prêtre ?
Non, c'est le prêtre qui accompagne le sport. Donc, mon identité, c'est vraiment fils de Dieu et prêtre. C'est l'identité première qui se retrouve dans tous les domaines. Quand je chante, eh bien voilà, c'est pour transmettre la joie, la beauté, partager une émotion. Et je le fais vraiment avec ma conviction de prêtre. Et puis, comme arbitre, d'ailleurs, quand j'arbitrais en Ligue supérieure à l'époque, si j'étais mauvais, eh bien c'était au prêtre que les spectateurs s'en prenaient en disant « Ah merde, tu ferais mieux d'aller t'occuper des premiers communiants plutôt que de venir arbitrer ». Donc ça veut dire que j'étais perçu comme celui qui, par nature, devait être impartial. Le prêtre, normalement, s'il essaie d'être à l'écoute de l'Évangile, ben, il est porteur d'une justice, il est porteur de quelqu'un qui est la vérité, et donc il ne peut pas favoriser l'un au détriment de l'autre. Mmh. Et ce qui m'a le plus touché dans mon expérience, c'est quand des joueurs avaient l'impression que je ne correspondais pas à cet idéal de prêtre en tant qu'arbitre. Ils ne comprenaient pas que moi, comme prêtre, je pouvais, dans mes décisions arbitrales, ne pas être juste, ou en tout cas de ce qu'ils considéraient comme justice. Ouais. Dans un sens, c'est un très 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 beau sentiment, mais ça me touchait vraiment aux entrailles, parce que je crois vraiment que, d'ailleurs, il y a un texte biblique qui dit que Dieu est arbitre, c'est-à-dire qu'il favorise la rencontre en toutes les nations, et Dieu sait si c'est nécessaire aujourd'hui dans notre monde éclaté et en guerre, et Dieu est celui qui peut aider à transformer les lances en faucilles et les épées en socs de charrue, comme dit Isaïe. Et donc, Dieu est arbitre, j'essaye, à ma petite mesure, de le réaliser, avec aussi la dimension d'être insulté sans pouvoir réagir. Ça, c'est une expérience tout à fait fascinante, parce que vous êtes là sur le terrain, à l'époque, quand j'arbitrais à Bâle ou à Berne, il y a 30 000, 40 000 spectateurs, vous sifflez un pénalty en votre âme et conscience, et voilà qu'il y a tout un peuple qui est contre vous et qui vous insulte, et vous ne pouvez pas aller au micro pour expliquer pourquoi vous avez sifflé le pénalty. Donc il y a une espèce d'abandon d'état, comme si j'étais désarmé et impuissant par rapport à cette haine, et en même temps une exigence de rester fidèle à sa ligne, parce que dès que l'arbitre commence à essayer de vouloir compenser, s'il a l'impression qu'il a commis une erreur, c'est la catastrophe. Il faut vraiment garder une ligne, il faut vraiment rester fidèle à cette justice. Les règles du jeu permettent ainsi de ne pas favoriser les uns au détriment des autres. C'est un des rares lieux, le sport, où au fond tout le monde part avec les mêmes armes. Bien sûr, il y a les clubs qui ont plus d'argent, il y a la réalité économique est omniprésente, mais n'empêche que sur le terrain, au football, une petite équipe peut, dans un jour de grâce, battre une grande équipe en Coupe Suisse, par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une espèce d'égalité fondamentale sur le terrain qui m'a toujours beaucoup plu.
Et vous venez d'utiliser dans un jour de grâce. Alors, vous avez évoqué le fait que dans les textes religieux ou dans la Bible, parfois, il y a des références au sport à travers l'arbitre. Oui. Mais alors, dans le sport, on y va. Hein. Vous citez des exemples. Hein. Les stades de Paris attendent leur dieu pour les Jeux Olympiques. La squadra Azzurra est plongée en enfer. Le Danois Vingegaard au paradis. La gardienne de l'équipe féminine française de handball, ou handball, on dira, maintient un sanctuaire inviolé sur le penalty. C'est absolument incroyable. Jusqu'au HC Davos qui se montre en état de grâce. Comment on explique dans les milieux sportifs qu'on utilise autant de termes qui sont liés à la foi, on va dire ça au sens large
parce
du terme.
Parce qu'il y a une espèce de sacralisation du sport qui a ses avantages et ses inconvénients. Ses inconvénients, c'est que parfois on divinise en quelque sorte des vedettes dont on voit après qu'elles sont malheureusement décevantes. Mais il y a des avantages dans le sens qu'il y a vraiment une espèce de rencontre humaine et de joie poussée à l'extrême et de capacité de se dépasser soi-même, de se transcender, que le sport favorise, l'esprit d'équipe, quand on est tous ensemble pour tirer à la même corde. Donc il y a une espèce de dimension presque sacrée dans l'acte sportif. D'ailleurs, c'est un rituel. On entre, l'arbitre avec les juges de touche, et puis les joueurs se mettent selon un ordre. C'est comme si le chaos était mis en ordre, comme une espèce de création. Et puis, le sport, l'avantage, c'est qu'on ne sait pas le résultat. C'est une création. À chaque fois, si on va voir une pièce de théâtre ou un concert, on peut connaître la partition, on peut savoir le texte de la pièce. Tandis qu'un match, on ne sait pas le scénario. Et c'est ça qui est fascinant, et je pense qu'il pousse en quelque sorte les émotions jusqu'au bout, avec les dérives, bien sûr, du dopage, du nationalisme, du racisme, de la tricherie, de tout ce qui peut malheureusement faire dévier le sport de son idéal, qu'on retrouve en tout cas dans les activités sportives du dimanche, si je puis dire. C'est le sport de compétition qui, à la fois, nous exalte et parfois nous plonge dans le désarroi. Pour moi, le sport de compétition, il n'est ni meilleur ni pire que la société. Il a un reflet. Il est vraiment un reflet de la société, très, très réaliste, un peu comme un révélateur photographique qui montre en fait les enjeux éthiques, les enjeux relationnels, le respect de l'autre, le respect de soi-même, le respect de l'arbitre. Enfin, c'est un microcosme, un terrain. C'est vraiment comme une espèce de jeu de la vie qui se déroule là, et puis qui fait que quand on arrive avec un Federer qui a des gestes exceptionnels, on a l'impression que c'est presque une anticipation du paradis, si je puis dire. Quand Federer et Nadal, puisque Nadal vient d'arrêter, se tombent dans les bras l'un de l'autre après un match en 5-7 à Wimbledon, et puis ils sont les plus grands adversaires et les meilleurs amis du monde, pour moi ça c'est une petite parabole du royaume de Dieu. Federer, Nadal, cette amitié-là, c'est absolument exceptionnel. C'est ça le sport. C'est quand on arrive à dépasser l'agressivité, dépasser les mauvais coups pour faire triompher le beau jeu, le beau geste. Il y a un côté esthétique magnifique.
Alors, dans le domaine spirituel qui est le vôtre, est-ce qu'on pratique sportivement, par exemple, des exercices ?
Oui, parce que je crois que, d'ailleurs, il y a cet adage latin « mens sana in corpore sano », l'esprit sain dans un corps sain, c'est-à-dire que plus mon corps est déployé, développé, plus mon esprit et mon âme pourra trouver une sérénité. C'est une question d'équilibre. Au fond, nous sommes un tout, et le sport est un lieu magnifique pour réaliser cette harmonie. Donc, la spiritualité du sport, c'est la spiritualité de l'harmonie. L'harmonie, après, qui se traduit dans un geste qui paraît tellement naturel, il a été travaillé mille fois, mais après, il devient comme facile. Alors, d'ailleurs, quand j'arbitrais en Ligue supérieure avec mes juges de touche, avant le match, nous avions un petit temps de prière, de méditation pour nous concentrer, en demandant à l'Esprit Saint de nous permettre de prendre les bonnes décisions. Et je crois vraiment que Dieu est présent dans le stade, comme il est présent dans l'ensemble de la vie, comme il est présent dans votre émission, Jean-Marc.
Ça va aussi, Jean-Marc. Ou Jean-Charles, c'est la même chose, il n'y a pas de souci.
Jean-Marc.
Vous êtes adorable. François-Xavier, dernière question, il nous reste très peu de temps, mais évidemment, dans certains pays, à l'époque, on reprochait à la religion d'être l'opium des peuples. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine façon, le sport est un peu l'opium des peuples?
Certainement que c'est une dérive qui existe, et que je connais des gens qui vivent sport, respirent sport, en font en quelque sorte comme leur religion laïque. Mais j'ai l'impression que les garde-fous sont en place, et ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Paris, dans l'ensemble, était absolument remarquable. Il y a eu des rencontres, il y a eu des moments de fraternité entre nations, au-delà de tous les conflits, tout à fait exceptionnels. Donc oui, ça peut être une religion, mais si elle est bien encadrée, elle peut servir vraiment au développement de l'homme. Et bien, si elle est bien accompagnée, exactement.
Oui, absolument. Oui. Merci François-Xavier Amert, auteur du livre « Dieu est dans le stade » paru à Nouvelle Cité. Et je le conseille, alors les gens de foi vont évidemment le lire, mais je le conseille à toutes les footballeuses et tous les footballeurs, parce que vous faites, il y a plein de paraboles comme ça, plein de symboliques dans ce livre. C'est très plaisant à découvrir. Vous nous dites des choses autant.
Je prends les 11 joueurs avec chaque fois une caractéristique.
Absolument. Et vous vous le faites.
Merci Jean-Marc.
Avec talent. Merci beaucoup François-Xavier. À bientôt. Bonne nuit à vous.
À bientôt. Bonne nuit. Merci.
Au revoir. Si vous voulez des coordonnées plus précises sur les livres que parfois nous évoquons ou qui sont, et on en parlera un petit peu tout à l'heure encore de livres, mais qui sont souvent des suggestions que vous nous faites. Et puis nous, on se procure le livre, on le lit, puis après, on accueille son auteur puisque c'est vous qui nous faites cette proposition. Alors vous allez sur notre page rts.ch/coeur ou alors vous cherchez Ligne de cœur sur tous les moteurs de recherche et à la date de ce jeudi 17, vous allez trouver les informations que je vous donnerai en conclusion d'émission. Mais si vous n'êtes pas jusqu'à la fin de l'émission en notre compagnie, vous pouvez y aller sans autre. rts.ch/coeur. Le cœur et la ligne de cœur reviennent juste après le journal puisqu'il est 23h.